Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première Fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 3, quand les footballeurs français sont devenus des hommes sandwich, en 1970. C'est un récit de Michael Louchard.
Nous sommes en 1877, dans la ville industrielle de Kettering, au nord de l'Angleterre. L'équipe locale crée la sensation en entrant sur le terrain. Chaque joueur arbore une éclatante lettre T sur le maillot. T comme Kettering Tires, la marque locale de pneus. Pour la première fois depuis la création des compétitions de football, un club a osé inscrire de la pub sur son maillot. C'est une véritable provocation pour les dirigeants de la jeune et très puritaine fédération de football. Scandale, menace d'exclusion, la pub disparaîtra des torses pendant près d'un siècle à Kettering comme ailleurs. En France, c'est au début de la saison 1970, il y a tout juste 50 ans, que ressurgit cette innovation marketing. Le 12 septembre, la Fédération française de football autorise enfin chaque club à négocier son propre contrat de publicité sur les maillots. Depuis 2 ans, une seule marque d'eau minérale, Vittel, était admise après un accord signé par le groupement des clubs, l'ancêtre de la Ligue de football professionnelle. Il faut dire que la bataille est rude autour de ce nouveau style de partenariat qui était même interdit avant 1968. Nombre de joueurs affichent leur mécontentement d'être transformés en hommes sandwich. L'ORTF, unique chaîne de télévision publique, refuse même de diffuser certains matchs, estimant qu'il s'agit de la publicité déguisée. Autre temps, autre mœurs. Pour les dirigeants de club, au contraire, cette nouvelle manne financière est une aubaine. Le football professionnel est mal en point. Le sponsoring maillot lui offre une bouffée d'oxygène, ouvrant en même temps une nouvelle ère qui va s'étendre à toute l'Europe dans les années 70. Les premiers partenaires deviennent emblématiques et se fondent dans les couleurs du club. On se souvient de Manu France à Saint-Étienne, RTL au PSG, Europe 1 à Lens et Nantes. Depuis, l'esthétisme publicitaire a évolué à géométrie variable. Parfois apparaissent des visuels surprenants. Les maillots en voient de toutes les couleurs. Chaque supporter pourrait donner un exemple. Aujourd'hui, toutes les équipes européennes arborent de la pub. Y compris les plus réticentes et identitaires, comme l'Athletic Bilbao ou le FC Barcelone. La virginité des maillots est devenue un souvenir.
Alors Bastien Druth, bonjour. Vous êtes économiste, auteur de plusieurs livres, dont « Économie du football professionnel » paru aux éditions La Découverte, et plus récemment « Mercato, l'économie du football professionnel » paru aux éditions Bréal. Avec vous, nous allons aborder la période actuelle pour faire le point sur la situation économique du football français. Mais la première question serait de savoir quelles sont les principales évolutions qu'on peut distinguer depuis 50 ans dans le sponsoring maillot des clubs français ?
Alors, il y a eu plusieurs phases. D'abord, le sponsoring maillot, il a essentiellement concerné des partenariats avec des entreprises régionales. C'était le cas lorsque le championnat de France était encore relativement peu médiatisé, lorsque il n'était pas encore question de diffuser les matchs de Ligue 1 à l'étranger. Donc on a eu dans une première phase des partenariats avec des entreprises qui étaient vraiment régionales, des supermarchés du coin par exemple. Ensuite, on a eu le développement de partenariats avec des entreprises de stature nationale. On peut penser par exemple en ce moment au sponsoring maillot de Orange à l'Olympique de Marseille. Et puis ensuite, quand la médiatisation du championnat de France elle a encore plus augmenté, eh bien, il y a eu les multinationales. Donc ça concerne qu'une poignée de clubs, les plus grands clubs français. On peut penser par exemple au constructeur automobile Hyundai à l'Olympique lyonnais. Voilà, donc après, c'est plus les clubs sont importants, plus ils ont une surface médiatique importante, plus il y a de chances que le sponsor soit international. Donc ça s'est fait en plusieurs phases, d'abord régional, national, multinational. Et puis, enfin, ce qu'on peut dire pour conclure cette question, c'est le fait que bon, ça s'est fait dans ce sens-là d'un point de vue chronologique, mais on a encore, par exemple, des partenariats avec des entreprises régionales ou nationales en ce qui concerne le sponsoring maillot pour les clubs de Ligue 1.
La publicité sur le maillot, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans un budget?
Alors aujourd'hui, les recettes de sponsoring et de publicité, ça représente quand même 410 millions d'euros par saison pour les clubs de Ligue 1 en agrégé. Ce qui fait à peu près, donc pour la sponsoring et publicité, à peu près 20% du budget des clubs de Ligue 1. Alors évidemment, le sponsoring, ce n'est pas que le sponsoring maillot, mais l'élément central du sponsoring, c'est quand même le sponsoring maillot. Alors après, c'est très très différent selon que les clubs soient petits ou grands. Si on prend par exemple le Paris Saint-Germain, le contrat de sponsoring avec Accor, c'est plus de 60 millions d'euros par saison, ce qui est à peu près en ligne avec ce qui se fait dans les grands clubs européens. En revanche, pour les petits clubs de Ligue 1, ben parfois il y a du mal à trouver un sponsor maillot. Et puis quand les petits clubs de Ligue 1 trouvent un sponsor maillot, ben, les montants tournent aux alentours de 1 à 2 millions d'euros par saison.
Est-ce qu'on pourrait imaginer revenir un jour à des maillots vierges de publicité parce que ça serait pas assez rémunérateur pour un club, ou est-ce que ça reste encore quand même quelque chose d'important dans le budget d'un club?
Bah, alors, on a déjà vu ces dernières saisons des clubs de Ligue 1 qui commençaient la saison sans sponsor maillot, mais ce n'était pas un choix, c'était parce qu'ils n'avaient pas trouvé un partenaire qui était suffisamment intéressant. Mais c'est vraiment un impératif économique aujourd'hui d'avoir un sponsoring maillot. Il n'y a aucun club de Ligue 1 qui ne peut se passer d'un contrat de sponsoring maillot. C'est tout simplement impensable dans le football d'aujourd'hui.
D'accord. Pour en revenir plus globalement, financièrement, au club français, comment ils se portent en ce moment? Parce qu'on dit toujours qu'ils ont moins d'argent que les Anglais, que les Allemands, les Italiens ou les Espagnols, hein, les quatre grands championnats sur lesquels on fait référence. Avant la crise du Covid et aujourd'hui, en fait, comment ils se portent?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Ligue 1, c'est un championnat qui est de taille intermédiaire en Europe. C'est-à-dire qu'il est bien derrière Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, mais il est aussi bien devant tous les autres championnats, par exemple Belgique, Russie, Ukraine. Donc il est largement devant. Donc il est vraiment dans une position qui est complètement intermédiaire. Ce qui fait que la Ligue 1 joue un peu un rôle de passerelle entre les quatre grands championnats européens et tout le reste du monde au final. Il y a des jeunes joueurs qui viennent faire leurs armes en Ligue 1 pour gagner de l'exposition médiatique et les Ligue 1 les vendent ensuite ces joueurs au club des quatre grands championnats. En fait, jusqu'à maintenant, le modèle de la Ligue 1, c'est un modèle de déficit structurel avant les transferts. Et en fait, avec les ventes de joueurs, eh bien, les clubs arrivent à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est vraiment un modèle de vendre des joueurs au plus grand championnat pour survivre. Donc là, jusqu'à maintenant, bah, ça marchait relativement bien. Les clubs français, bon. Il y a des déficits, mais n'était pas dans une situation qui était, on va dire, dramatique. En revanche, ben là, on peut se poser des questions avec la crise du Covid, parce que là, les grands clubs européens sont peut-être plus frileux à acheter des joueurs des clubs français, notamment ben, parce qu'il y a une incertitude sur les revenus, hein, les clubs anglais, allemands, etc. On ne sait pas s'ils vont devoir jouer à huis clos, on ne sait pas si les contrats de sponsoring maillot vont être renouvelés pour les années qui arrivent. Donc il y a une incertitude sur les recettes des grands championnats, enfin des grands clubs européens, qui font que il va peut-être y avoir des, soit il y aura moins de recrutement, il y aura moins d'achats de joueurs de clubs français, soit ça se fera à des prix qui seront plus bas. Et donc ça remet en question ça remet en cause le modèle économique des clubs français. Donc là il y a quand même une incertitude pour les saisons à venir au sujet de la santé financière des clubs français.
Merci Bastien Druth d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée. Il était une première fois consacré au sponsoring maillot dans le foot. C'est fini. Ce podcast original de 20 minutes est à écouter ou réécouter en s'abonnant gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.